Lundi 11 septembre 2023, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de sport pendant une heure. On va vous accompagner aujourd'hui avec notre éminent arbitre de foot, Corentin, qui est avec nous. Bonjour Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
On était sur un petit décalage horaire, j'ai l'impression. Notre homme de l'impartial, sauf quand le 15 de France joue. Ah, il y a un sacré décalage.
C'est un petit peu ça, hein. toujours derrière les bleus.
Bah écoutez, on va essayer de vous retrouver avec nous pendant cette heure ensemble. Il a désormais plus de caps que Julien Faubert en équipe de France de foot. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Ah, on allait la chercher loin cette référence. Hein.
Très belle référence.
mais ce mythique joueur français égale aussi Anne-Françoise Marie qui est avec nous ce soir. Bonjour Anne-Françoise.
Et bonjour.
Voilà, de retour dans l'émission de sport. On va évidemment retrouver dans cette heure les tops et les flops de ce week-end, les sportifs qui ont sous-performé, ceux qui ont bien réussi leur week-end. À suivre aussi un entretien en face-à-face avec Arthur Chazel qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin bonsoir, bonjour. On se dit, bonjour. On sait plus quoi dire à cette heure-ci. Vous êtes l'un des développeurs d'une tablette tactile et de l'audio description générée automatiquement.
Absolument.
Voilà, vous allez nous parler de l'histoire de ce projet, comment ça a évolué, comment ça a pris vie, cette histoire, cette aventure qui est Touch2C.
Oui.
Voilà, on en parlera dans quelques minutes. Et ensuite, il sera l'heure évidemment de débattre autour d'un sujet chaud de l'actualité. Ça ne vous a pas échappé, la Coupe du Monde a commencé pour les Bleus. Et est-ce que ce sont les Français qui ont gagné vendredi soir ou est-ce que ce sont les All Blacks qui ont perdu ? On essaiera de répondre à cette question, évidemment, et on terminera avec une chronique et peut-être les pronostics si on a le temps. Mais tout de suite, on commence par l'actualité du sport en région. Vous êtes sur Esprit Sport, restez avec nous, on s'occupe de tout pour vous ce soir.
L'info sport avec Corinne Fonfélix.
Un week-end marqué par du rugby.
Et l'équipe de France est sortie victorieuse de sa rencontre contre les All Blacks 27-14, une équipe composée en grande partie par des joueurs du Stade Toulousain. Sur les 23 joueurs, 8 jouent dans le club de la Ville Rose, 4 au Stade Rochelet ou encore 4 à l'Union Bordeaux-Bègles. La Ville Rose qui a vu hier au Stadium l'équipe du Japon affronter le Chili. Les Brave Blossoms ont dominé les Condors avec le bonus offensif 42-12. Les Sud-Américains, malgré la défaite, ont signé une belle prestation pour leur premier match de l'histoire dans une phase de poule de mondial.
Victoire des Phoenix de Toulouse en handball.
Oui, le premier match de la saison en Star League a réussi au Phoenix de Toulouse qui affrontait l'US Dunkerque. Les Toulousains ont réussi à remporter la rencontre avec un bénéfice de 2 buts en fin de match. Cette victoire permet donc de récolter 2 points au classement général de Star League et de se classer à la 6e place. La prochaine rencontre sera contre Créteil. Ce sera le vendredi 15 septembre.
La Vuelta est passée par le Béarn vendredi et samedi.
La Vuelta, c'est 3000 km de compétition cycliste en 3 semaines et 21 étapes sur les routes d'Espagne. Français Andorre cette année. La 78e édition du Tour cycliste d'Espagne faisait étape dans les vallées de Gavarnie. Vendredi dernier, la 13e étape entre Formigal et le col du Tourmalet, passée par l'école mythique du cyclisme pyrénéen. Après un passage par l'école du Pourtalet, de l'Aubisque, du Solor et de Spandel, les coureurs se sont attaqués à l'ascension du col du Tourmalet côté Barège. Une étape remportée par Vingegaard. Les coureurs sont partis pour la 14e étape de Sauveterre de Béarn pour une arrivée à Lara Belaga.
Et en triathlon, l'Orange Labert décroche un 2e titre mondial d'Ironman.
Oui, le sportif du Tarn a ajouté une nouvelle page à son palmarès en remportant le titre mondial d'Ironman dans la catégorie des 55-59 ans lors des championnats du monde à Nice dimanche. Victoire en 10h et 2 minutes et 56 secondes. Dominateur à vélo et en course à pied, il comptait déjà 25 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant après 21 km de course. Il avait déjà remporté un titre mondial dans la catégorie des 50-54 ans il y a 4 ans, à l'âge de 50 ans.
En quelques mots, vous qui êtes sur le plateau, qu'est-ce que vous en pensez de cet Ironman à 54 ans? Est-ce que vous voyez faire pareil?
Ah, c'est hyper impressionnant.
Voilà, Laurent Jalabert, habitué du vélo, qu'on connaît maintenant en tant que double champion du monde d'Ironman.
Après, c'est clair qu'il a une longueur d'avance sur le vélo.
Oui, c'est vrai.
Petite blague. Mais je pense que la technique aussi joue beaucoup. C'est très très long quand même. La partie vélo sur l'Ironman, c'est plus de 100 km.
180,
oui. Bon après, il faut compléter avec natation, un marathon.
C'est un peu le sport du sportif complet.
Oui, au final, il y a aussi pas mal d'autres sports en athlétisme. On peut penser au décathlon, mais, bien sûr. Voilà, mais évidemment. C'est vrai qu'on est sur un sport qui demande énormément d'endurance, qui est très impressionnant, ne serait-ce que quand on prend conscience de l'existence de sports pareils.
C'est ça.
C'est vrai que la différence entre le footing et des gens qui font ce genre de choses, on n'a pas l'impression d'être de la même espèce des fois.
C'est du courage. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec les tops et les flops de ce week-end.
Les tops et les flops.
Alors on va bousculer un petit peu les habitudes, on va commencer avec Corentin qui est à distance, on espère que le délai va pas être embêtant. Corentin, votre top et votre flop.
Alors beaucoup d'infos qui vont tourner je pense aujourd'hui autour de la Coupe du Monde, je vais parler moi de la ferveur populaire qu'il y a eu autour du 15 de France. Alors on va parler plutôt des chiffres des audiences avec 15,4 millions de spectateurs en moyenne avec un pic à 17 millions. Pour comparer par exemple avec le match du 20 novembre, toujours face aux All Blacks. En 2021, c'était un pic à 7,6 millions. Et si on compare avec le dernier exploit en date des hommes de Galtier qui ont été gagnés à Twickenham face à l'Angleterre, on a vu un pic à 10,4 millions de téléspectateurs derrière nos bleus. Donc on sent qu'il y a une progression, qu'il y a un engouement populaire autour de l'événement de cette Coupe du Monde. Mais surtout, on peut comparer avec notamment, par exemple, la finale de la Coupe du Monde 2018 où la France avait battu la Croatie. 22,3 millions de spectateurs sur le pic. Alors, on est à encore 5 millions d'écart, mais c'est quand même des chiffres très, très intéressants. Et surtout, on voit des gens dans la rue, on voit qu'il y a une belle ferveur populaire autour de l'équipe de France. On espère que ça va durer. Et pour mon flop, je vais rester sur la Coupe du Monde et parler des hymnes nationaux. Alors, gâchis, selon moi, avec une idée à la base originale d'avoir mis une chorale d'enfants pour chanter sur place, sauf que les enfants n'y sont pas, c'est des chansons qui sont enregistrées, souvent des chants en canon, et on vient gâcher des moments forts, comme la Marseillaise pour le match d'ouverture, ou Flower of Scotland pour le match des Écossais, ou encore Land of My Father pour l'hymne du Pays de Galles. Et voilà, je suis à deux doigts d'espérer que TF1 rallonge la page de pub pour rater les hymnes, parce que c'est vraiment insupportable.
C'est vrai qu'on se moquait beaucoup de la bascule sur France Télévision, maintenant on a la coupure pub juste après les hymnes sur TF1.
D'ailleurs, il me semble que World Rugby veut arrêter déjà les hymnes chantés par les enfants après seulement quelques matchs.
Ils réfléchissent à les retirer tout de suite.
Écoutez, ça serait bien la première décision que World Rugby appliquera en bien.
Et rapidement aussi.
Oui, rapidement aussi, c'est vrai. Peut-être à Erwan après. À suivre.
Moi, je vais rester un peu dans le rugby, notamment pour le top. Pour le top, j'ai décidé de parler du match d'hier soir. Et ben, les Fidji, ils ont fait rêver tout le monde. Alors moi, perso, j'étais au stade pour ce Pays de Galles Fidji de gala. Et franchement, à quel pied ! Supporters gallois et fidjiens se faisaient la guerre en tribune par chants interposés. Alors bien évidemment, chacun avait son petit chouchou. Côté gallois, Dan Bigard et Josh Adams étaient acclamés. Pour les fidjiens, c'était Radradra et YCA qui faisaient battre les cœurs et vibrer les cordes vocales. Et puis à Bordeaux, on n'est pas loin de quelle ville ? De La Rochelle, bien sûr.
Ouais, t'es tous bons en géographie, là. Hein.
Voilà, j'ai vu très réactif. Alors, je peux vous dire que l'entrée en jeu de Levani Botia, franchement, on n'était pas loin de l'éruption dans le stade, à tel point il était bouillant. Bien évidemment, l'apogée du match, c'était les dernières minutes, absolument sensationnelles. Mais dès le début, il ne faut pas croire, la passion est régnée au Matmut Atlantique. Les hymnes ont grondé dans le stade et le Sibi y a résonné avec respect. Qui plus est, les spectateurs ont pu tous être installés à l'heure dans le stade, contrairement à Irlande-Roumanie, jouée la veille au même endroit. Pour clôturer la première salve du mondial, on a eu le droit à un beau récital, à une poésie même.
Et pour votre flop ?
Et pour mon flop, j'ai décidé de parler basket. Et oui, pour la deuxième Coupe du Monde masculine de basket consécutive, les États-Unis repartent au pays sans médaille. Battu par l'Allemagne en demi, le pays de l'oncle Sam s'est laissé surprendre par le Canada en petite finale. Résultat, pas de médaille de bronze. Une fin de match haletante aura eu raison des USA. Alors forcément, quand on parle de ça, on pense à la déclaration de Noah Lyles au dernier mondial athlétisme, courant août. Alors, après avoir récupéré la médaille d'or au 100 mètres, au 200 mètres et au 4x100 mètres, il avait pointé du doigt l'égocentrisme du sport américain. Là-bas, les équipes se déclarent championnes du monde à chaque titre national, par exemple un titre de NBA ou de NFL. Comble du ridicule pour la Team America, l'athlète qui avait pointé ce problème du doigt il y a quelques semaines, il est américain. Et ça, le fait qu'un champion du monde de son propre pays te tire dessus à boulet rouge, ça fait encore plus mal quand sa prophétie se vérifie à ses dépens, à quelques semaines après.
Ça, c'est un vrai flop bien expliqué, tout le monde a écouté religieusement. Anne-Françoise, comment passer après ça ?
Alors moi, je vais revenir sur le rugby et je mets mon top à Peato Mouvaka, qui a fait une entrée pendant le match France-Nouvelle-Zélande complètement folle. Alors c'est un joueur que j'aime beaucoup, on a déjà l'occasion de l'apprécier au Stade Toulousain. Le gars, il est talonneur, mais en fait il joue comme un 9, comme un 10. Il te fait des passes, des cadrages, des bords, tu sais pas d'où il arrive. Il est complètement fou. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment... Bah, c'était le vrai signe, en fait, on en reparlera tout à l'heure de ce match, mais le vrai signe du basculement du match, d'un truc très sérieux, très pragmatique, très on prend au pied, etc. Un truc un peu foufou, on est arrivé avec des gens qui font des passes dans tous les sens, et là, c'était sympa. Et là, on a vraiment vécu le rugby spectacle qu'on aime bien. Voilà. Et en flop, et ben moi je suis dégoûtée parce que Corentin a piqué mon flop. Moi aussi je voulais flopper les hymnes parce que c'était insupportable en fait. Alors déjà d'habitude il y a un petit décalage entre la musique et le stade parce que les spectateurs chantent toujours beaucoup plus vite.
Oui, la retransmission que le rythme, audio, télé, et puis dans le stade, c'est pas pareil.
Les spectateurs chantent toujours un petit peu plus vite que la musique normale, mais alors là c'était n'importe quoi. On avait 5 voix dans tous les sens, on captait rien du tout. C'est un petit peu dommage parce que les Coupes du Monde chez nous on en a pas très souvent et que la Marseillaise c'est quand même un moment hyper important.
Ça fait vibrer. Après, il y a l'hymne écossais aussi qui est assez incroyable à écouter.
Ah, mais il y en a plein qui sont fous.
Voilà. Après, on verra ensuite. Peut-être que dans les autres stades, ça ira peut-être un petit peu mieux. On sait que le prochain match, c'est à Lille, il me semble, à Pierre-Mauroy. Donc, peut-être que la ferveur du Nord va transporter cette équipe.
Écraser les enregistrements.
C'était assez hétérogène d'ailleurs. Il y avait des hymnes qui étaient vraiment complètement ratés. Ouais. Je pense à la Marseillaise et à l'hymne argentin aussi. Que j'ai trouvé
l'hymne argentin, c'était un scandale.
C'était proche du film d'horreur, franchement.
Ah oui.
Et par contre, l'Écosse Pays de Galles, ça allait un peu mieux. Mais franchement, quand on a déjà entendu les hymnes originaux, surtout quand sait que l'Écosse, la moitié de l'hymne est censée être chantée a cappella, sans même instrumental derrière, franchement, c'est vraiment dommage.
C'est assez incroyable.
Ça fait la boulette.
Ah oui, c'est le début d'une Coupe du Monde. Peut-être qu'on espère que ça va aller mieux. En tout cas, entre ces hymnes un petit peu bancales et la mauvaise expérience qu'on a eue lors de l'Euro, la finale de la Ligue des Champions à Paris, où il y avait eu là aussi des petits problèmes au niveau des spectateurs, ça enchaîne un petit peu les boulettes du côté de la France.
Vivement les JO.
C'est exactement ce que j'allais dire. Vivement les JO.
Et les problèmes d'entrée dans les stades aussi, du coup.
Ouais. Peut-être qu'on en parlera. Mais avant ça, il est l'heure de parler d'inclusivité. De parler d'une belle innovation toulousaine.
Esprit Sport, le face-à-face.
C'est le moment, Arthur Chazel est avec nous. Alors on vous dit rebonjour, évidemment. Vous êtes là pour nous parler d'une... On va parler de ça, on va parler de quoi ? D'une invention, d'une innovation. Comment on peut qualifier ce projet ?
Absolument, et c'est une innovation. Elle est constituée d'une tablette tactile et d'une audio-description. L'objectif de Touch2See, c'est de permettre au public malvoyant de suivre un événement sportif.
Très bien. Un événement sportif, on est sur quoi ? Du foot, du rugby, du handball, du volley ?
Pour l'instant, on s'intéresse essentiellement au football et au rugby. Et à terme, on s'intéressera au basket, handball, tous les sports qui sont collectifs et qui comportent une balle.
Alors, il y a 87% des personnes atteintes d'un handicap visuel qui jugent que les événements sportifs ne sont pas facilement accessibles. Pourtant, il y a de nombreux amateurs de football, de rugby, aveugles ou malvoyants, qui aimeraient vivre un match en direct avec la même intensité que les gens qui chantent à côté d'eux, assis avec eux dans les gradins. C'est désormais possible grâce à vous et c'est à Toulouse en plus.
Absolument,
on est fiers de dire ça.
Il y a un vrai problème qui existe, qui n'existe pas à Toulouse, mais c'est que l'audio description dans le monde du sport n'est quasiment inexistant et dans le monde entier. À Toulouse, on a la chance d'avoir notamment Corentin Gougoule qui est avec nous et qui anime notamment l'audio description à Toulouse. Mais effectivement, dans le monde du sport, l'audio description est quasiment inexistante. Et le public malvoyant ne peut pas utiliser la radio parce qu'elle a une latence qui est trop importante. Oui. Puis le contenu n'est pas adapté. Donc il y a un vrai manque d'accessibilité à ce niveau-là. Et donc nous, on a trouvé une solution pour y répondre qui semble bien fonctionner.
On va repartir à la genèse de ce projet. D'où elle est partie, cette envie, quand vous étiez en train de faire vos études, de venir aider les personnes en situation de handicap ?
Absolument. Et donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc le projet est quand même assez jeune. Et donc l'origine du projet, elle vient d'une vidéo qui se déroule à Bogota, en Colombie. On voit une personne voyante qui décrit le match du malvoyant à l'aide du toucher. Et un match étant essentiellement visuel, leur transmettre par le tactile, ça a beaucoup plus de sens, enfin, ça a vraiment un intérêt important. Et donc l'idée est venue de là, et par la suite après ça a pris beaucoup d'impulsion. Cette vidéo elle a été vue plusieurs centaines de millions de fois, donc vraiment elle a fait le tour du monde.
Comment l'idée de la tablette vous est venue ? C'est venu directement ou est-ce qu'il y a d'autres ébauches d'appareils un petit peu farfelus dans votre bureau ?
Donc effectivement, aujourd'hui on a un produit qui est relativement fini, on arrive bientôt sur l'industrialisation, mais effectivement on a eu beaucoup de prototypes auparavant. Et au-delà d'une simple tablette, il y a une idée qui est très technologique derrière tout ça, c'est qu'on utilise de la donnée sportive. La donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs du ballon. Parce qu'on n'a pas conscience, mais aujourd'hui, il y a plus de 500 000 matchs par an, donc tous les matchs qu'on voit à la télévision, qui sont décrits avec de la donnée sportive. Donc c'est vraiment les coordonnées des joueurs, il y a toutes les données event, comme une passe, un dribble, etc. Et tout ça s'est retransmis dans les logiciels grâce à des caméras, c'est automatisé. Et nous, en fait, on vient récupérer ces flux de données, et grâce à ça, on arrive à faire vivre toute la solution. Donc que ça soit la tablette tactile, qui retransmet la position du ballon, qui retransmet l'intensité du jeu avec de la vibration, ainsi que l'audio description qui est générée automatiquement, qui apporte des informations précises, le nom du joueur, etc. Et donc l'idée d'avoir, enfin c'est un vrai enjeu technique hein, derrière tout ce projet, l'idée derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui on a un principal problème de l'audio description, c'est le fait qu'elle existe très rarement, vraiment très très rarement, et grâce à la donnée sportive on a un pouvoir de diffusion qui est vraiment très important, donc on peut diffuser la solution dans le monde entier, et avec un coût qui est quand même très faible puisqu'il n'y a pas d'humain derrière, donc les clubs peuvent le mettre en œuvre et ça peut vraiment bénéficier aux personnes malvoyantes. Et souvent, les gens me posent une question importante. C'est est-ce qu'il y a réellement des malvoyants ou des personnes aveugles qui suivent un match de sport ?
Et comment les faire venir au stade ?
Oui, ouais, tout ouais. à fait. Bah, bon, déjà, il vaut mieux ne pas avoir de problème d'accès, comme on a pu le voir pour la Coupe du Monde de rugby. Mais imaginons que tout se passe bien. En fait, on le sait précisément, parce que par exemple, on a des villes comme à Toulouse, même à Manchester, en Angleterre, où on sait précisément combien il y a de casques d'audiodescription qui sont pris par stade. Oui. Et donc, en général, on est sur du 1 supporter déficient visuel pour 1000 spectateurs.
Ah, donc, ça fait quand même pas mal. Hein.
C'est déjà significatif. Donc, quand on est dans un stade de 50 000 places, on a déjà une cinquantaine d'individus. Et donc, c'est un chiffre qui peut augmenter. Mais après, voilà, il dépend évidemment des efforts qui sont faits s'il existe rien.
Ah bah, s'il y a plus d'outils pour les aider, c'est sûr que probablement ils viendront plus.
Absolument.
Moi, j'ai une petite question sur les données. Du coup, elles sont ouvertes, ces données-là ?
Non, en fait, c'est des données qui sont très sensibles, qui coûtent en principe très cher. Nous, on en bénéficie au titre du projet.
OK.
Mais ces données, pour avoir un ordre d'idée, elles sont utilisées par trois types de personnes. Les journalistes, évidemment, pour faire leur analyse, etc. Les coachs, pour coacher les équipes. C'est devenu un des points majeurs, en fait, sur l'entraînement des équipes, etc. Même la Coupe du monde de rugby. Hein. L'équipe de France a entraîné avec ce genre de données-là. Et après, il y a les parieurs sportifs. Par exemple, quand il y a un but, il y a des bet stops. C'est pour arrêter les paris. Okay. Pas que les gens en stade parient avant les gens en télévision.
Ah oui.
Les appareils qui récupèrent ces données, c'est un rapport avec les GPS qu'on les voit avec un dossard comme ça, le maillot, comme un soutien-gorge. Mais au final, est-ce que c'est un petit...
C'est tout à fait la même forme quand même, Jonathan.
Non, mais dans l'idée, ça se met sur le torse. Est-ce que c'est ce qui récupère les données, cette sorte de GPS, balise qu'ils ont dans le dos ?
Effectivement. Alors déjà, le sport, le rugby, c'est un sport très spécifique puisque il y a souvent des agglomérats de personnes. Donc les technologies utilisées habituellement, c'est plutôt de la computer vision, donc c'est des caméras qui filment le stade et qui arrivent à retransmettre les coordonnées, etc. Mais dans le rugby, comme les gens ils sont collés, ils ont mis des puces GPS. Ouais. Donc effectivement, c'est les mêmes technologies. Maintenant, il y en a même une nouvelle, c'est les ballons connectés qui sont arrivés dernièrement. Donc c'est un marché qui est en pleine évolution, mais du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a un marché potentiel qui est de 500 000 matchs par an. Suffit qu'on s'y branche et on a un pouvoir qui est vraiment exceptionnel.
Et du coup, ces données-là, elles appartiennent aux équipes, aux stades, aux...
Alors, ça varie en fonction des sports, parce qu'il y a évidemment un droit déjà de la propriété des joueurs, puisque ça retransmet vraiment leur position, etc. Donc c'est pour ça que ces données ne sont déjà pas publiques. Mm-hmm. Et après, voilà, il y a une propriété qui est partagée entre les fournisseurs, les fédérations et les joueurs et les clubs, etc.
Et vous êtes partenaire de toutes ces instances-là.
On est partenaire des fédérations ou, en général ou des clubs, donc... Okay. Donc voilà, et donc pour rappeler, nous, notre solution, elle est composée d'une tablette tactile qui est fait un peu plus d'une feuille A4 qui vient transmettre grâce à un curseur magnétique la position du ballon. On a de la vibration qui transmet l'intensité du jeu, comme une passe, un dribble, un tir.
Du coup, on pose la main sur la tablette.
Ouais, absolument.
Et on sent en fait.
En 5 secondes, on a compris son fonctionnement. Génial. On le met sur les genoux où on veut dans le stade.
Okay.
C'est gratuit, hein, évidemment. Et à partir de ça, on peut vraiment suivre le match avec plaisir. Puis on a du coup une audio description qui peut être générée automatiquement. Mais quand il y a une audio description qui existe, comme avec Corentin notamment qui participe. Elle est évidemment possible sur la solution. Donc.
Corentin, qui a une question, justement.
Oui, si Arthur peut nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour les supporters qui ont envie justement de bénéficier de cette innovation, les jours de match, voilà, comment est-ce qu'il faut s'y prendre auprès des clubs qui pourraient mettre en place cette solution ?
Oui, donc excellente question. Tout d'abord, on est en train de beaucoup déployer, etc., mais on n'a pas mis la solution à plein temps dans un stade. On est en train de travailler là-dessus, mais ça va arriver prochainement. Mais donc, à terme, d'ici quelques mois, on espère, quand une déficience visuelle souhaitera venir en stade, il pourra simplement s'y rendre comme habituellement. Donc, en général, ils viennent à des portes handicap où ils trouveront la solution. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou autre. Et en échange d'une carte d'identité ou d'une carte d'invalidité, ils peuvent bénéficier de la solution gratuitement dans l'ensemble du stade. Donc, il n'y a pas de process particulier à avoir auparavant. Il suffit simplement de s'identifier à la porte handicap.
Et on sait qu'il y a des matchs aussi à la télé qui peuvent être...
avec de l'audio description. Est-ce que cette technologie elle pourra exister pour les malvoyants qui regardent le match à la télé, ou est-ce que c'est trop compliqué à mettre en place pour l'instant?
Alors aujourd'hui, il y a vraiment aucun match qui sont audio décrits à la télévision.
D'accord.
Et donc c'est quand même délicat. Puis les commentaires de télévision sont pas vraiment adaptés pour vraiment poursuivre.
Oui.
Sans avoir
certains commentateurs profitent du fait d'avoir de l'image
sûr,
pour habiller.
C'est pas du tout les mêmes commentaires qu'à la radio, par exemple.
C'est bien plus précis, la description, c'est sur le moment présent. On n'a pas les images pour anticiper ou pour profiter de parler pendant trois quarts d'heure sur un joueur qui s'est fait mal.
Oui, tout à fait. Peut-être j'aimerais ajouter une dernière chose. On a la Coupe du monde de rugby qui se déroule actuellement. Bon, on aura certainement des grandes dates annoncées prochainement, mais on n'a pas encore les dernières autorisations, donc on attendra un petit peu de notre côté. En tout cas, vous pouvez suivre le projet Touch to See. Donc on a un site web, on est aussi sur les réseaux sociaux. On peut nous contacter très simplement si vous voulez vous joindre à des expérimentations ou vraiment nous rencontrer. Et sachant que sur Toulouse, on sera présent à la médiathèque José Cabana, il me semble.
Cabanis,
c'est ça. Donc on y sera présent pour les deux matchs de ce week-end, donc le 16 et le 17. Donc c'est Samoa, Chili, ainsi que Afrique du Sud, Roumanie.
Super.
Donc on y sera présent, donc vous pouvez venir gratuitement et vraiment tester la solution. Ainsi que le 21 septembre, on sera à la fan zone de
Toulouse. Excellent, super.
Ouais. Donc n'hésitez surtout.
Ouais, faut faire de la pub, ouais.
Ouais, n'hésitez pas à nous contacter auparavant et on est là pour ça. Donc.
Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'il sera possible d'introduire cet appareil dans les stades, les salles aussi, sûrement pour le handball, pour le basket?
Alors nous, on a vraiment la volonté d'équiper toutes les infrastructures déjà, donc tous les stades, etc. Et on proposera par la suite d'équiper les particuliers qui puissent en bénéficier chez eux. Maintenant, jusqu'à présent, on pense que les lieux seront déjà équipés auparavant, donc ils peuvent éventuellement venir avec la leur, mais il est possible de se voir refuser pour des questions. On ne peut pas venir avec n'importe quoi dans un stade, donc c'est peut-être pour la raison pour laquelle on utilisera celles qui seront directement.
Comment les stades vous ont vu arriver quand vous êtes arrivé avec votre tablette?
Comment ils ont
pris la chose?
C'est une bonne question, parce qu'on apporte quand même une technologie qui aujourd'hui n'a aucune équivalence dans le monde.
Ouais.
Vraiment, le niveau d'accessibilité des personnes malvoyantes dans le monde entier, dans le monde du sport, est vraiment au niveau zéro. Donc déjà, il a dû échanger, etc. Maintenant, on a quand même eu un accueil qui est très très favorable. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est très bien, évidemment, pour la société, etc. Mais ça reste une obligation légale. Donc c'est pas non plus un loisir. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'échanges qui sont très favorables. On échange avec toutes les plus grandes fédérations, on va dire, européennes. Et ça avance plutôt bien dans ce sens-là.
Corentin, il y a quelque chose à rajouter?
Oui, savoir un petit peu aujourd'hui, comme on parle beaucoup du handicap, de l'accessibilité, de l'inclusion, est-ce que votre solution, elle a été vue, notamment au niveau politique? Est-ce que vous avez eu des soutiens de la part d'associations, de personnalités qui sont engagées sur ces sujets-là?
Oui, aujourd'hui, on est soutenu par les plus grandes associations européennes sur le sujet de la déficience visuelle. Donc, on a un très bon engouement aussi de ce côté-là. C'est important parce que c'est peut-être ces acteurs-là qui aussi sont en mesure de dire cette chose, celle-ci n'est pas bien. Donc, aujourd'hui, ils nous ont complètement validé. Maintenant, sur l'aspect politique, on n'a pas de lien particulier avec le ministère ou autre. C'est encore des étapes qui sont difficiles. On espère qu'avec la maturité du projet, ça va venir. Et, on y croit.
On y croit pour vous aussi. Et promis, on suivra cette aventure qui est Touch to See, on le rappelle. Est-ce qu'on peut redonner vos coordonnées pour vous retrouver?
Bien sûr. Donc, il y a le site web. C'est très, très simple. Donc, Touch to See, c'est T-O-U-C-H, le chiffre 2, see.fr. Et vous trouverez les mails ou même le téléphone. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter.
Très accessible, en plus de ça. Voilà. Merci beaucoup, Arthur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on suivra, encore une fois, tout au long de cette année, cette aventure qui est Touch to See. On se retrouve juste après une petite musique. Il sera l'heure de débattre. Et on parlera rugby, évidemment. Et ce premier match de l'équipe de France. Alors, classique, est-ce qu'il faut se réjouir? Est-ce que c'est la victoire de la France ou la défaite des Blacks? Eh bien, on verra ça juste après.
Business.
De retour pour débattre de ce sujet, est-ce que les Français ont gagné vendredi soir ou est-ce que ce sont les All Blacks qui ont perdu ? Alors maintenant à vous de répondre à cette question qui alors peut paraître assez simple mais finalement qui ne l'est pas forcément. Vos débats, vos réactions, vos propositions, Anne-Françoise, les Français ont gagné ? Où les Blacks ont-ils perdu ? Sachant que les Blacks n'ont pas perdu un match de poule de Coupe du Monde depuis la création de la Coupe du Monde de rugby, soit 34, 35 ans ?
Ouais. Enfin, sachant quand même que les Blacks s'étaient fait rincer par les Box pas très longtemps avant, deux semaines avant. Moi, personnellement, je n'avais pas trop d'inquiétude. Enfin, déjà, je pense que ce match, qu'on l'ait gagné ou perdu au final sur la sortie de poule... c'est pas ça qui va être hyper important, mais je pense que clairement, en première mi-temps, enfin, il y a eu deux mi-temps en fait. Clairement, c'était très différent entre la première mi-temps où c'est les Blacks qui avaient la main sur le ballon, c'est eux qui mettaient le jeu, nous on était là, on gérait, pas affolé, mais un peu contracté quand même. Je sais pas si c'est la blessure de Julien Marchand, laissé en d'entrée, enfin, on les sentait un petit peu tendus, quoi, nos petits bleus.
Les All Blacks étaient pas venus pour rigoler, quoi.
Ah oui, non, mais là ça se voyait, hein, c'est clair. Et par contre, alors, deuxième mi-temps, je sais pas ce que Fabien Galthié leur a dit dans les vestiaires. Mais alors là, il a dû sortir la lettre de d'un mec fusillé, voilà, parce que ça les a, enfin voilà, ils sont revenus de la pause. Tout d'un coup, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de mettre le feu, ils avaient envie de montrer que le rugby c'est hyper spectaculaire. Et ils ont envoyé du jeu. Enfin, ça les a transcendés. C'était vachement plus agréable à regarder d'ailleurs la deuxième mi-temps que la première. Parce que franchement, en première mi-temps, on s'ennuie un peu quand même. Non ?
Est-ce que le signe de cette révolte dans le match, ça vient pas de la mêlée au final ? Parce que la mêlée, on les a assez tassés au final.
Ah bah, oui, c'est bien tassé, oui.
En deuxième mi-temps.
Ouais, mais dès la première mi-temps, parce qu'en fait, dès la première mêlée, on a pris 3 points, je crois, si je ne m'abuse.
Non, parce qu'on aurait pu en parler, mais l'arbitrage était aussi un petit peu particulier, hein, oui. Pas aussi clément non, avec les Français qu'avec les...
On a pris un nombre de bras cassés complètement dingue.
Effectivement.
Non, mais leur,
qui aurait mérité un carton jaune pour le talonneur droit.
Le pilier.
Le pilier,
le pilier, pilier sur les côtés, Joël.
Pilier
droit, il s'est fait, mais souffler du... Oh là là,
c'est
dernière,
incroyable, il n'a pas tenu une mêlée de tout le match. Corentin, les Français ont gagné ou les All Blacks ont-ils perdu ? Tout seul.
Alors pour le coup, je vais pas la jouer suisse sur ce débat. Pour moi, les Blacks ont clairement perdu le match parce que quand on voit le peu de trous qu'on a pu leur laisser, où ils ont été marqués quand même deux essais, alors il y aura toujours une petite polémique peut-être sur l'en avant, sur le deuxième essai, même si là encore une fois il y a toujours cette règle de l'inertie ou pas au moment de la passe. On a laissé quelques trous, on a vu qu'ils ont su les exploiter. C'est exactement la même chose que ce qui s'était passé en novembre 2021. Je pense que les Blacks ont perdu, notamment parce qu'ils ont fait beaucoup trop de fautes. Nous, les Français, en ont fait que 4. Et les Blacks ont vraiment donné trop de ballons de relance, trop d'opportunités de prendre 3 points pour Thomas Ramos, alors qu'on sait que ce soit à 35, 40, 45 mètres, il peut aligner, sachant qu'il a laissé passer, je crois, 2 coups de pied, plus la transformation à la fin du match de Jaminé qui passe pas. Donc l'addition aurait pu être un peu plus salée. Je pense que ce match d'ouverture, il traduit les mots qui sont en train de gangréner l'équipe des Blacks depuis la crise du Covid, malheureusement. Les nations de l'hémisphère sud ont été vachement touchées, les Blacks encore plus. Et voilà, donc pour moi, ils ont clairement perdu ce match, alors que nous, on a peut-être été un peu timorés au début. Et les Français ont mieux abordé la deuxième mi-temps et on a réussi après à en profiter.
Je sais qu'Erwan n'est pas forcément d'accord avec cette histoire de en avant accordé, non accordé par Monsieur Peppers.
Bah moi justement, j'étais au stade du coup et c'est vraiment arrivé devant moi. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, la passe m'a pas choqué avec l'inertie. Je trouve qu'elle est, la passe certes, le ballon arrive. 3 mètres devant là où partait Richie Mounga, il me semble, ou Rieko Ioane plutôt. Mais au final, Rieko Ioane, il courait pas très vite non plus, mais l'inertie, la deuxième loi de Newton, c'est assez simple à comprendre, c'est juste on applique une force sur le ballon avec un mouvement, le ballon qui part après suit le mouvement de la personne qui l'a lancé.
On peut comprendre qu'il y ait une inertie sur un mètre, un petit peu plus, mais sur 3 mètres. À partir de quand ?
Il y a une ligne en plein milieu de la passe.
À partir de... En plus, oui, quand il fait la passe, il a les pieds sur la ligne au centre du terrain, pas au centre du terrain, mais un peu après. Ça se voit quand même. Ça devient. À partir de quel moment, est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'à partir de quel moment c'est considéré comme un avant ? Et qui c'est plus considéré comme de l'inertie.
Je pense que si
on est dérangeant, je me permets, ce qui est dérangeant, c'est qu'en fait, l'arbitre n'a pas simplement demandé la vidéo pour. En fait, donner une explication, notamment au grand public. Parce qu'en fait, juste s'ils avaient checké la passe à la vidéo en expliquant que voilà, pour eux, c'était réglementaire parce qu'ils jugeaient que l'inertie était bonne, parce que l'arbitre était sur la ligne de passe, etc. Il faut se rappeler qu'il y a en France 15 millions de personnes devant leur télévision. C'est pas 15 millions de personnes qui regardent le top 14 tous les week-ends. Pas 15 millions de personnes qui vont voir leur équipe du coin aussi jouer quand c'est le moment. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers de ces règles-là. Et il faut aussi savoir faire de la pédagogie. C'est ce qui fera aussi comprendre un petit peu mieux ce sport pour des gens qui sont un peu novices. C'est peut-être là aussi où l'arbitre a peut-être pas été bon sur ce moment. Parce que nous, on peut le comprendre en expliquant. Et c'est là aussi où on pose un cadre pour les actions qui vont suivre, s'il y a en avant ou pas.
Après, cette question de pédagogie, les débats autour de l'inertie existent aussi en top 14, en Champions Cup, auprès des aficionados de rugby. Même, franchement, le mec qui tient la buvette dans le club du coin, il a le même débat. Le problème,
c'est
que... Ah bah
c'est moi qui ai choisi le débat, quand même.
Sur l'inertie, je parle exactement pas sur est-ce que les Bleus ont gagné ou les Blacks ont perdu. D'ailleurs, moi, je pense que les Bleus ont gagné. Mais le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que cette question d'inertie, en fait, c'est en fonction d'où on se situe. Si c'est contre nous, on n'est pas d'accord. Et si c'est avec nous, on trouve que c'est génial et que...
Tu peux chauver aussi.
Oui, voilà, forcément.
Après, je pense pas que repasser la vidéo, ça aide justement dans les... Sur les passes qu'on trouve dans le jeu, avec l'inertie, en fait, elles vont tout le temps sembler en avant à la vidéo parce que ça, c'est plus lent, donc on a moins ce mouvement en avant. Et je suis pas sûr que ça ait aidé dans ce cas-là précisément.
Et puis il y a un très bon exemple de à quel point on pousse la vidéo et où ça dénature le sport, c'est l'arrivée de la VAR dans le foot avec les hors-jeux. Maintenant, on est capable de dire quand quelqu'un est hors-jeu, même si c'est de 2 cm. Et en fait, maintenant, il y a plein de personnes qui se demandent, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça
avant? Voilà, il y a 3 mètres sur une passe, quand même.
Non, mais il y a 3 mètres, mais, ouais, mais sur l'inertie, on ne va pas faire des calculs non plus. Il ne va pas s'arrêter pour sortir une calculatrice, Jacob Piper. Et puis, il y a eu aussi quelques choix de Jacob Piper qui ont été plus litigieux que d'accorder
ça, c'est
cette,
sûr.
Comme le fait d'accorder un carton jaune au bout de 11 fautes, contre All Black. Oui, est-ce qu'il aurait eu la même exigence, la même tolérance avec les Français?
Il y a peut-être un petit problème de World Rugby sur la manière, pas forcément de World Rugby, je pense plutôt, mais il y a un problème culturel sur la manière de juger les Blacks. Et je pense qu'elle n'est pas liée aux institutions. Je pense pas qu'il y ait Bill Beaumont dans le château de Bowser qui se frotte les mains et qui demande à faire gagner All Black, les All Blacks à chaque fois. Non, je pense qu'il y a vraiment une question de pression et aussi d'appréhension par rapport à la manière dont on doit juger les Blacks. Je pense qu'on fait beaucoup plus attention, on réfléchit beaucoup plus à deux fois. Et que ce soit le carton ou même parfois la pénalité, il est sorti beaucoup moins rapidement quand c'est le Black. Ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais sorti. Par exemple, ces dernières années, les Blacks ont pris beaucoup plus de cartons depuis à peu près 6-7 ans, notamment de cartons rouges, que sur les 40 dernières années. Donc voilà, il y a une libération de ça, mais ce n'est pas encore tout à fait au point et ce n'est pas encore totalement équitable par rapport aux autres nations.
Corentin, en tant qu'arbitre, comment on réagit aussi à cette situation urgente d'arbitrer ou de prendre des décisions importantes? Parce que là, on est quand même à un match d'ouverture d'une Coupe du Monde du pays hôte.
Ouais, c'est compliqué ce genre de situation. Après, il faut se rappeler que, par exemple, Jacob Piper, il prend tout sur lui parce qu'il est arbitre principal, mais le corps arbitral, c'est quand même aussi quelqu'un à la vidéo, c'est des juges de touche, il y a un quatrième arbitre. Moi, j'ai regardé justement avant de préparer un peu le débat, un petit peu les avis que les gens avaient pu avoir sur l'arbitrage de Jacob Piper, et je suis retombé un peu sur les explications aussi de Craig Joubert sur la finale de 2011. En fait, c'est des matchs qui impliquent énormément de pression, parfois sur les épaules d'un seul homme, et ça peut être très compliqué à gérer. Alors après, on va me dire c'est leur métier, etc. Mais là, vous avez 80 000 Français qui poussent derrière une équipe. Vous avez en face les All Blacks, qui sont l'équipe la plus légendaire qui existe dans ce sport. Donc là, l'arbitre, il est peut-être un peu tiraillé. En plus, voilà, on sait que les Blacks, c'est une équipe qui pousse fort, qui est peut-être un peu dans le dur, qui a été peut-être un peu favorisée par World Rugby. On peut revenir sur les polémiques de la non-suspension de Jordi Barrett. Je crois que c'est Jordi Barrett qui a fait un plaquage un peu litigieux, qui finalement n'est pas suspendu. Quand on voit l'arbitrage qui est fait, ou en tout cas le jugement qu'on fait de certaines actions des nations qui sont plus petites, notamment dans le Pacifique, ça montre qu'il y a peut-être un arbitrage à deux vitesses entre les plus gros et les plus petits. Mais voilà, sur Jacob Piper, c'est toujours compliqué ce genre de moment, même si c'est son métier. Il y a quand même une grosse pression qui est mise sur les arbitres. Et voilà, il faut aussi éviter des fois de se cacher derrière l'arbitrage. Ce match-là, on l'a gagné. Si on avait un arbitrage peut-être plus favorable, on aurait mis une pilule aux Blacks. L'important, c'est le résultat, c'est d'avoir gagné. Maintenant, il va falloir assurer, parce que gagner contre les Blacks, c'est bien. Mais si on fait match nul contre l'Uruguay et qu'on perd contre l'Italie, ce travail-là, il aura été réduit en erreur, et ce ne sera pas la faute de Jacob Piper, quoi.
Je rejoins un peu Corentin sur l'idée, par exemple, des juges de touche. On a vu que les juges de touche ont été assez en difficulté. Il y a une scène notamment un peu surréaliste où il y a un juge de touche qui indique la touche comme si le ballon était directement allé en touche, alors que pas du tout. Et c'est Dupont qui vient voir l'arbitre de touche et qui dit « Non, non, mais le ballon a rebondi dans le terrain avant d'aller en touche. » Et l'arbitre de touche fait « Ah d'accord !» et va du coup à l'endroit où est tombé le ballon. Je trouve ça quand même fou. Alors c'est Antoine Dupont, d'accord, tout ce qu'on veut, c'est un dieu du rugby, il est incroyablement fort, il est très respectueux. Voilà, on peut faire des tonnes de vidéos combinées sur lui pour dire à quel point il est génial. Pendant ce temps-là, c'est pas un arbitre. Et qu'un joueur vienne voir l'arbitre de touche.
C'est son rôle de capitaine.
Oui, mais qu'il vienne juste voir l'arbitre de touche pour lui dire « Ah non, non, mais il n'y a pas eu ça », l'arbitre de touche, il se laisse déjuger extrêmement rapidement, je trouve.
Enfin, peut-être qu'il avait conscience aussi qu'il n'avait pas bien regardé, quoi. Peut-être qu'il était au bar et qu'en fait, il avait juste oublié de regarder. Parce que c'était évident.
Sur ce match-là, on sait en tout cas que les arbitres n'ont pas gagné la faveur du public français. On l'a vu aussi l'exemple avec Pays de Galles-Fidji. Mais est-ce qu'au final, les Français ont gagné d'eux-mêmes? On rappelle qu'au début de la première mi-temps, il y a eu quelques petits soucis, notamment en défense, où c'était un petit peu friable. On l'a vu sur l'essai qui a été pris très rapidement. Au pied, Thomas Ramos a peut-être porter les Bleus, à hisser les Bleus vers une sorte de motivation supplémentaire, l'esprit d'aller à la guerre avec lui, sachant que lui, il a un pied magique, il en a raté qu'une seule, il a raté qu'une pénalité. Ouais.
Thomas Ramos, je trouve qu'il apporte aussi la sécurité, la stabilité que pouvait apporter par exemple Wilkinson aux Anglais à un moment, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il va les mettre, et en fait, on est confiant là-dessus. Et ça libère, je pense, aussi tout le... Après, sur l'essai, sur le premier essai des Blacks, il y a une incompréhension entre Aldrit et... Et j'ai perdu son nom.
Jalibert ?
Non. Non, c'était le centre qui était à gauche. Parce qu'en fait, on voit Aldrit qui monte hyper vite et qui s'arrête. Et en fait, ils se sont pas bien compris dans leur placement. Et là, pouh !
Puis alors, on en parlait la semaine dernière.
Pas passer ces trucs-là, quoi.
Bon, on en a parlé la semaine dernière. Les blessés ont évidemment
coupé
ces automatismes.
On est l'équipe.
On en a parlé la semaine dernière, Françoise. Il fallait.
Mais là, il y en a un de plus, d'accord.
Il y en a un de plus avec Julien Marchand qui devrait.
Peut-être, sur la fin.
Corentin.
Oui, revenir sur la prestation de Thomas Ramos, qui a été excellent au pied, mais qui a été excellent aussi dans le jeu aérien. Il a quasiment perdu aucun duel. Ça rassure énormément. Enfin, surtout quand on le met en concurrence avec Melvin Jaminet, qui est un peu plus en difficulté dans le jeu aérien, même si au rebond, il a été très bon pour aller chercher cette balle pour le dernier essai. Thomas Ramos a été excellent même juste dans le jeu d'occupation avec Jalibert. La bonne paire a permis de battre un peu la stratégie des Néo-Zélandais. C'est ce qui était un peu annoncé par Eddie Jones, d'avoir une demi-heure où le jeu au pied ferait pas mal de différence. On a eu un peu de ping-pong rugby, mais c'était attendu et on a su répondre aussi dans ce jeu-là où on avait été dominé, notamment par les Irlandais, si on se rappelle, sur les dernières années. C'est ce qui nous mettait un peu en difficulté. Là, on a réussi à apprendre de ces erreurs-là. Et puis, pour revenir sur les blessures, je pense que musculairement, c'est compliqué pour les Bleus. Mais par contre, la montée en puissance, elle va se faire petit à petit. Je pense qu'ils seront vraiment au top contre l'Italie. La préparation, elle a été pensée différemment. Par exemple, on a joué l'Écosse qui a été vraiment physiquement au top d'entrée, alors que nous, on a été au top peut-être qu'un mois plus tard. Donc voilà, c'est des échéances qui ont été différentes parce que nous, on vise la victoire finale, donc il faut être prêt jusqu'à fin octobre. Peut-être que les Écossais visaient une qualification en quart et donc il fallait être prêt d'entrée pour essayer d'aller chercher des points précieux qu'ils n'ont pas réussi à obtenir malheureusement pour eux face à l'Afrique du Sud. Mais voilà, il faut être quand même content de la performance de nos Français. Pour revenir au sujet du débat, est-ce que les Français ont gagné ou la Nouvelle-Zélande a perdu ? Je pense que la Nouvelle-Zélande a perdu, mais il faudra voir comment ils vont réagir s'ils se qualifient pour les quarts de finale, ce qui devrait normalement être une formalité pour eux, vu les autres adversaires de la poule.
Il faut voir comment ils réagissent en quart
contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud.
Ouais. Moi, j'attends le match contre l'Italie. Je pense que ça va être... ça peut être sympa.
Erwan, je vous ai vu lever le doigt comme à l'école. Le monsieur au fond de la classe.
C'était non, c'était presque une réaction instinctive pour témoigner le fait que Thomas Ramos il a été excellent, mais je tenais juste à nuancer parce qu'il a fait une grosse boulette à un moment. Il a fait un en avant sur un ballon haut et on se dit heureusement que personne n'avait suivi le coup de pied côté black, parce que si ça arrive face à une équipe qui suit les coups de pied, pour le coup, voilà, je pense que ça va aller ça directement. Après Thomas Ramos, oui, je suis d'accord, et moi je pense même que ça a été l'homme du match. Pour le coup, même si il me semble que c'est Grégory Aldrit qui a été élu homme du match. Mais voilà, Thomas Ramos, il a fait une performance incroyable. Mais bon, c'est ce genre de grosse erreur, peut-être due à la pression. J'imagine, on joue pas un match d'ouverture de Coupe du Monde à la maison tous les jours non plus. Ben voilà, c'est des choses qu'il faudra gommer avec le temps, je pense.
Je crois que les conditions n'étaient pas évidentes aussi.
Il paraît, oui, beaucoup.
Il paraît qu'il faisait très chaud. Moi, j'ai entendu 40 degrés ressentis sur la pelouse. Ouais. Très moite, donc peut-être ballon glissant. On a vu quand même pas mal de fautes de main.
Mais au final, Ramos au pied, la mêlée qui a écrasé le pack néo-zélandais. Malgré l'arbitrage, les changements qu'a fait Fabien Galthié, tout ça a fait que, au final, ben, ça a plutôt bien réussi au bleu. Et est-ce qu'on peut qualifier donc que les Français ont gagné malgré le niveau un petit peu en dessous de ce qu'on attendait de l'All Blacks? Et ben, en tout cas, on espère que ça va continuer face à l'Uruguay, face à l'Italie, face à la Namibie, un petit peu plus tard dans cette Coupe du Monde. Et bien voilà, on a débattu. La semaine prochaine, ce sera l'heure d'un autre débat. Tout de suite, on passe à la chronique.
Esprit Sport, la chronique.
Il me semble qu'on va encore parler de Coupe du Monde, mais différemment.
Exactement. Moi, je suis très contente de revenir dans l'Esprit Sport. J'étais venue lors de la Coupe du Monde de foot au Qatar et je vous avais parlé un petit peu des conséquences écologiques de la Coupe du Monde. Bon, alors évidemment, au Qatar, on avait des stades construits au milieu du désert, de la climatisation à ciel ouvert, des spectateurs hébergés dans d'autres pays qui venaient en avion. Bon, bref, on avait le top du top des choix pas du tout écolo. Mais bon, c'est facile de critiquer les autres. Est-ce que nous, on fait mieux quand c'est à notre tour d'héberger un très gros événement sportif ? Alors, Je vais commencer par les points positifs. Déjà, c'est que les organisateurs se posent la question. C'est-à-dire qu'ils se soucient de connaître l'impact environnemental de leur événement. Ils ont fait des études d'impact. Ils se sont basés sur différentes bases carbone de l'ADEME ou de EcoEvent, par exemple, et ils ont regardé les différents rapports qui avaient été faits sur les Coupes du Monde de rugby de 2015, de 2007, des statistiques, etc. Donc déjà, ils ont étudié le truc. Ils ont sorti tout un papier dédié aux gestes positifs, que ce soit sur l'écologie, mais aussi sur l'inclusion. Donc en fait, ils ont ce document disponible sur leur site web. Et du coup, j'ai été regarder ce qu'ils avaient mis en place. Donc la bonne nouvelle, c'est que la Coupe du Monde de rugby sera 10 fois moins émissive que la Coupe du Monde de foot du Qatar. Bon, évidemment, l'absence de construction de stades en plein désert, ça aide. Et puis, on a aussi un volet important sur les transports. Il y a beaucoup de transports d'équipes et de supporters qui se font en train. Il y a la SNCF qui est partenaire majeur de la Coupe du Monde. La SNCF annonce 70% des trajets de la Coupe du Monde par le rail. Tout ce qui est faisable en moins de 5 heures. Donc, en fait, ils vont transporter 80 fois des équipes nationales. Là où, pour aller jouer des matchs de championnat national, souvent, on prend l'avion. Bon, après, ils n'ont pas vraiment la main sur les transports qui vont coûter le plus cher, c'est-à-dire les supporters très lointains qui vont venir en France. Il suffit de voir à Toulouse le nombre de Japonais qu'il y a pour savoir que ça a dû coûter un petit peu en carbone, quoi. Une autre problématique, ça va être par exemple le matériel. Les organisateurs de la Coupe du Monde, ils ont essayé de privilégier des achats le plus local possible, donc en France ou en Europe, et puis des fournisseurs qui prennent en compte la fin de vie des objets qu'ils fabriquent. Bon, malheureusement, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et puis, les équipements techniques de sport, la plupart du temps, c'est fait avec des matières synthétiques. Ça, c'est issu du pétrole. Et puis, l'extraction de ces matières, ça pollue encore plus que leur transport. Donc, on ne peut pas être parfaitement écolo sur ces sujets-là. En fait, il faudrait diviser encore par 3 les émissions de gaz à effet de serre de la Coupe du Monde de rugby pour être dans les clous des accords de Paris. On a calculé, donc du coup, il y a des analystes indépendants qui ont calculé que l'événement devrait générer 640 000 tonnes de CO2, en grande partie dû au transport des supporters qui viennent de l'autre bout du monde. Bon, pour finir, vous avez peut-être entendu parler des médailles qui vont être remises aux équipes. Elles ont été fabriquées à partir de téléphones portables recyclés, qui ont été collectés partout en France et du coup qui ont été transformés en médailles. Donc voilà, on sait que l'organisation a fait un effort sur la communication vers le public, mais aussi sur la communication vers les prestataires. Donc c'est-à-dire qu'ils demandent par exemple aux prestataires qui fournissent de la nourriture de faire attention au gaspillage alimentaire, d'avoir des menus le plus végétalisés possible, tout ça. Donc on ne sait pas si la bière est bio et écolo, mais en tout cas on sait que même si on est loin de la perfection, on voit que ces préoccupations environnementales, elles sont importantes. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la bonne nouvelle ?
Ah, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des accréditations pour les matchs, cette espèce de petite carte pour passer qui est en papier imprimé.
Ah, plutôt que du plastique.
Plutôt que du plastique, voilà. Ou des cartes en plastique. Une mention honorable pour les Japonais. On a vu cette image des Japonais.
Exactement,
qui ramassent les déchets.
On nettoyait le stade après eux.
Exactement, ouais. Ça c'est une vraie culture de... pas de la propreté, mais du respect du pays, ouais, qui est accueilli. Donc voilà, je pense que c'est un exemple qu'on devrait tous
le suivre.
Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'on pourra peut-être faire la comparaison avec les JO ?
Ah c'est sûr,
c'est un événement mondial qui ramène beaucoup de monde, avec
alors,
des médailles aussi.
Voilà,
que...
il va y avoir beaucoup plus de monde pour les JO. Et puis, il va y avoir aussi... en fait, il y a un impact de structure construite pour les JO qui va être beaucoup plus importante. En fait, pour la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de stades qui ont été construits exprès, par exemple. Alors que pour les JO, ils fabriquent des choses exprès. Après, il faut voir l'utilisation de ces infrastructures dans le futur, dans la durée, en fait, pour voir comment on amortit finalement le coût environnemental de ces constructions.
Ce qui a vraiment aidé à diminuer cette empreinte carbone par rapport à la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'est les stades en construction.
Ah c'est clair, parce qu'au Qatar, les stades qui ont été construits...
On partait de zéro.
On partait de pas grand-chose, il y en avait un quand même, mais surtout, ils sont pas utilisés, en fait. Il n'y a pas de joueurs de foot au Qatar. Donc, y en a un qui est démontable, qui a été démonté.
C'est en conteneur qui a été envoyé en Afrique.
Mais en fait, il y en a 6 ou 7 qui sont là et qui servent à pas grand-chose.
Mais on sait que les pays du Golfe ont une envie de développer le sport mondial chez eux. Affaire à suivre.
Voilà.
Erwan ?
Ouais, c'est vrai que comparé au Qatar, y a beaucoup de stades qui sont là, qui sont vides, dans lesquels il y a des équipes qui jouent, mais où il n'y a pas beaucoup de supporters, donc ça n'a pas grande utilité d'avoir des stades aussi grands. C'est quelque chose qui n'est pas trop comparable, par exemple, à l'Arabie Saoudite, qui a des stades qui sont relativement pleins. Ça dépend des équipes. C'est un peu comme en France, il y a des équipes qui marchent très bien, il y en a d'autres dont pas grand monde s'intéresse. Mais effectivement, du coup, pour les JO, il me semble qu'il y a notamment le village olympique qui va se transformer en éco-quartier après la fin des JO et aussi en résidence étudiante.
Voilà, après, les JO sont aussi l'occasion de moderniser des infrastructures et de faire pour les JO des investissements que de toute façon on aurait fait aussi. Voilà. Donc ça s'amortit en fait. Ouais.
Corentin, sur la question de l'écologie de cette Coupe du Monde de rugby.
Oui, il y a des choses qu'on ne prend peut-être pas en compte, c'est notamment au niveau de la diffusion, avec la bande passante qu'il faut mobiliser, avec aussi l'impact voilà, des gens qui vont regarder, parce qu'on ne regarde pas tous à 45 sur la même télé, chacun aussi son foyer pour sa télé, et que c'est une diffusion aussi qui est mondiale, donc une consommation qui est à un moment donné, à l'instant T pour tout le monde. Donc il y a ces questions-là aussi qui sont à prendre en compte sur ce qui est de la diffusion, peut-être essayer d'optimiser un petit peu la bande passante qui est utilisée, enfin voilà, voir aussi de ce côté-là comment les diffuseurs peuvent s'organiser.
Ouais, après je pense que le grand impact côté numérique, c'est est-ce que beaucoup de gens ont changé de télé spécialement pour regarder la Coupe du Monde ? Puisque la fabrication aussi des objets...
Certaines radios en font gagner exclusivement pour la Coupe du Monde. C'est pas mal, c'est un beau cadeau.
Ouais, mais du coup...
Pas écolo.
Voilà.
Est-ce qu'ils sont envoyés avec des véhicules moins pollueurs ?
Non, mais la fabrication même d'une télé, surtout d'une grande télé, c'est beaucoup de matière. Ça pèse lourd, que ce soit du plastique, voilà, c'est quand même...
C'est aussi la façon de consommer le sport.
Oui, tout à fait. Mais renouveler sa télé juste pour la Coupe du Monde parce qu'elle va faire 20 cm de plus, alors que ma télé marche déjà, ça, pour le coup, c'est pas écolo.
Ça mènerait à la surconsommation et ça, c'est peut-être notre débat qui sera abordé dans cette émission. En tout cas, on va bientôt clôturer cette émission, mais il est l'heure de vous donner un petit peu les bons plans pour pourquoi pas avoir un peu la frime auprès des collègues. On va passer au pronostic. Alors le pronostic, c'est un petit peu le moment où on prend trois matchs qui vont arriver dans la semaine. On essaie de donner un petit peu le gagnant et à vous après de frimer auprès des collègues en disant « moi je pense qu'un tel, un tel va gagner ». On va commencer avec, non pas du rugby, mais du foot. Il y aura le match Allemagne-France, qui sera évidemment un match amical. On sait que l'Allemagne a beaucoup de blessés, la France arrive en confiance. Anne-Françoise, un pronostic.
Bon, je mets la France gagnante.
Oui. Erwan.
Moi, je mets la France gagnante. Il me semble aussi qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, comme par exemple Kamavinga, qui compte être titularisé pour ce match afin de leur donner une opposition un peu contre des gros, leur dire tiens, vas-y, c'est toi contre des gros. Donc, je pense la France, parce que je pense qu'ils vont vraiment vouloir montrer, ce qui ne va peut-être pas forcément être le cas de l'Allemagne, qui vient de perdre son sélectionneur aussi. Donc, moi, je dis un petit 2-0 convaincant des Bleus.
On est vraiment sur carrément un score.
Oui.
Oui. Anne-Françoise, un score ?
Je me risquerais pas à ça.
Non, ça, on porte la poisse un petit peu de votre côté. Ça en donne un pronostic et c'est l'opposé.
Ouais, je préfère juste. C'est plus simple en fait.
Très
frimer
bien.
Si j'ai juste dit.
On se mouille pas trop.
On se mouille pas trop.
Très bien. Corentin, peut-être un pronostic aussi ?
Oui, moi j'aurais dit 3-0 pour la France. Ça va être une victoire facile face à une équipe d'Allemagne qui est vraiment à côté de ses pompes depuis des années.
C'est bien, on est en confiance sur les équipes de France. Rugby, basket. On rappelle aussi que rapidement, la mention honorable du rugby, c'est l'équipe de France militaire qui a été championne du monde face aux Fidji à Vannes. C'était à lieu ce week-end. Donc voilà, une équipe de France championne encore. Et ça, ça fait plaisir. On va passer du rugby. Jeudi, France-Uruguay, 21h. La Marseillaise, a cappella, en décalé. Anne-Françoise.
Ah bah là, c'est un pronostic hyper difficile à faire.
C'est vrai. Et là, je vais vous demander...
T'as besoin d'un score ou...
Oui.
Moi, je pense qu'il va y avoir au moins 40 points.
D'accord.
Oui.
Très bien. Erwan.
Moi, je pense que l'Uruguay, c'est une équipe qui joue très très bien. Notamment en 2019, ils avaient gagné contre les Fidji. Donc voilà, ça, il faut pas l'oublier. Et puis même, c'est une équipe qui montre souvent de très belles choses. Donc bien évidemment, je pense qu'ils vont absolument pas faire le poids face aux Bleus. Mais je pense que par contre, ils pourront mettre quelques points de leur côté. Et donc moi, j'imagine un petit score du style 50 à peut-être, allez, soyons fous, 21. On va dire qu'ils ont marqué 3 essais, les Uruguayens.
On va redéfinir l'idée de petit score quand même, ça fait beaucoup de points. Corentin, à distance, la France évidemment, mais
par contre, vu que c'est beaucoup de remplaçants qui vont rentrer, il y a 13 joueurs qui risquent de faire leur arrivée sur le côté des titulaires, et qu'on connaît la qualité qu'ils ont affichée face à l'Écosse et la friabilité notamment en défense.
Je dirais voilà, peut-être 40 à 15, mais moi je dirais 6 essais pour l'équipe de France, et on en prend un ou deux, l'important c'est la victoire avec le bonus, donner du temps de jeu aux joueurs, mais voilà, pas un match référence pour les remplaçants.
En tout cas, sachez que Anne-Françoise acquiesce vos paroles, Corentin. Et rapidement, deux mots, très sick, très concis. Dimanche, Afrique du Sud-Roumanie, un score, trois chiffres.
Un score à trois chiffres, ça peut. On peut dépasser 100.
On voit tous l'Afrique du Sud. Voilà, peu d'espoir pour la Roumanie de mettre ne serait-ce qu'une pénalité.
Oh, quand même.
Ou peut-être une pénalité peut, au début, parce qu'un Sud-Africain aura glissé et repris le ballon devant.
Très bien, d'accord, vraiment par gentillesse. Sur un malentendu. Très bien, Corentin aussi, est-ce qu'on voit peut-être les trois chiffres, les trois chiffres arrivés dans cette Coupe du Monde?
Ouais, pour le panache, on va risquer un 102 à 6, quelque chose comme
ah
ça.
Ah oui, d'accord, d'accord, très bien.
Deux pénalités roumaines quand même.
Ouais, je suis pas sûr que ça passe. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce deuxième numéro d'Esprit Sport. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On débattra, évidemment, il y aura une nouvelle chronique. Et on va là aussi parler d'inclusivité, puisque la semaine prochaine, nous retrouverons Madame Lynn Malric, vice-présidente du département de Garonne, pour nous parler là aussi d'une innovation mais qui a eu lieu l'année dernière. On parlera de Cessi Foot. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on va parler de Cessi Rugby, pardon, du rugby, donc pour personnes aveugles et malvoyantes. On verra comment ça se met en place en région. Merci d'avoir été avec nous. Merci Anne-Françoise pour cette première CAP.
Merci, bah deuxième.
Non, première cette année.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'est compliqué, faut.
C'est pas que les CAP, ça se comptait par saison.
Ah bah écoutez, c'est comme ça. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Erwan, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On vous retrouve la semaine prochaine et merci à vous aussi, Corentin, d'avoir été avec nous. Merci à tous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne journée, très bonne soirée à tous et donc à la semaine prochaine.